Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Une amitié entre deux femmes. Deux femmes qui ne s'aimaient pas tant que ça. Vous êtes si insupportable, mon amie Valentine, et moi si impossible, nous ne nous entendrons jamais. L'amie Valentine, un personnage récurrent chez Colette. Pour Bonne nouvelle, grand comédien, de Patrice Galbeau, Françoise Roset faisait revivre cette amitié, entre guillemets. Nous étions le 29 juillet 1970 sur France Culture.
J'ai choisi, dans les œuvres de Colette, mon amie Valentine, pauvre Colette. Mon Dieu, ça me rappelle une histoire où je me couvre de ridicule. J'avais une très grande admiration pour Colette, très jeune. Et un jour, je devais avoir quoi, 15 ans et demi, c'est 15 ans et demi, quelque chose comme ça. Et j'allais au théâtre avec ma mère qui, elle, connaissait très bien Colette. Moi, je ne l'avais jamais vue, mais je l'admirais et je l'imaginais, je ne sais pas, une femme longue, mince, superbe, extraordinaire, une fée. Bien. Après un premier acte passé au théâtre, nous allons dans les corridors et subitement, maman dit, tiens, oh, voilà Colette, bonjour Colette, comment allez-vous? Et voilà ces deux dames et qui se mettent à parler. Je vois Colette, qui était d'ailleurs très belle avec un autre type, mais très belle. Et j'étais très intimidée, je me cachais. Tout à coup, ma mère dit, ah, mais je vais vous présenter ma fille. Alors j'avance, gauche, intimidée, admirative, imbécile. Et Colette me fait un sourire charmant et dit une phrase. Et je n'entends que des airs. Et je la fixais, glacée, paralysée par mon admiration et mon émotion. Et je dis, si l'on peut dire, elle ayant entendu que des airs, je fais brrrr. Je ne savais pas que Colette avait l'accent bourguignon. Eh bien, je me suis bien attrapée ce jour-là. Mon amie Valentine, j'ai reçu votre carte postale. J'ai su démêler, dans les quelques lignes qui couvrent, comme d'un lacis de cheveux fins, la vue du lac du Bourget, ce qui tient d'amitié fidèle, d'affectueux souci. Nous nous sommes quittés un peu fraîchement, et vous m'écrivez, circonspecte, « Temps abominable, excursion impossible, nous songeons à rentrer. » Et vous, que faites-vous ? Cela suffit. Je traduis sans peine. J'ai peur de vous avoir fâché tout à fait. Ne m'oubliez pas, ne m'en veuillez pas. Nous n'avons pas deux idées communes, mais je vous aime bien. Je ne sais pas pourquoi. Je vous aime tel que vous êtes, avec tous vos défauts. Je suis inquiète de vous, rassurez-moi. Ne rougissez pas, mon amie Valentine. Ça fait tomber la poudre. Et sachez tout de suite que je suis encore votre amie. J'ai suivi par les journaux vos déplacements. Le Figaro m'assura de votre présence à Trouville. Et je ne sais quelle feuille féministe et mondaine vous dépeignit en termes surprenants. On vous attribuait un tailleur Louis XV, marine, impeccable, avec un Guayaquil torsadé de Pompadour. Guayaquil torsadé de Pompadour. En vérité, comme disait une camarade à moi, une nommée Claudine, je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être beau. parce que je vis dans un désert de sable jaune, 60 km² de plage, sans un poil de verdure, sans un caillou, je m'étonne avec simplicité qu'il y ait encore des dames pour porter des chapeaux, des robes étroites, des cols baleinés, de longs corsets et de périlleux talons pointus. Comment vous avouer que j'ai remisé pour la saison mes jupes et mes chaussures et que je foule, sous mes plantes indifférentes et cornées, l'algue vernie, la coquille coupante, le jonc gris et salé qui perce le sable. Comment oser me peindre à vous, noiraude que je suis, le nez un peu pelé d'un reste d'insolation, les bras gantés d'un cachou bon teint. Dieu merci, les mouettes et les goélands et les charmants courlis sont seuls à s'effarer de mon costume hippique, knickerbocker qui furent bleus et jersey de tricot rude. Ajoutez-y des bas de cycliste, des souliers en caoutchouc, une casquette ramollie, le tout jugé sur une grande bique de cheval bai, et vous aurez un petit groupe équestre à ne pas rencontrer au coin du bois. Que du moins je vous félicite, Fémina, reproduis votre portrait, en costume de tennis, parmi ceux des meilleures raquettes de Deauville. C'est charmant, cette cuirasse Jeanne d'Arc de Serge Blanche, qui coupe à mi-cuisse la jupe à pie. Vous avez là-dessous un petit air guerrier, pas sportif pour un sou, mais si sympathique. Vous voyez, on n'est plus fâchés du tout, nous deux. Ah, vous êtes si insupportable, mon amie Valentine, et moi si impossible. Je nous vois encore très dignes et changeantes, un adieu courtois et théâtral. Vous m'aviez demandé ce que je faisais cet été. Je vous avais répondu, mais je vais d'abord jouer la chaire à Marseille. Là-dessus, vous, encore ? Quoi encore ? Encore cette horreur ? C'est pas une horreur, c'est un sensationnel mimodrame. Une horreur, parfaitement. C'est bien là-dedans, n'est-ce pas, qu'on vous arrache votre robe et que vous apparaissez sans robe, parfaitement. Et ça ne vous fait rien. Ça quoi? De vous montrer en public, dans une tenue, dans un costume, enfin, ça me passe. Quand je songe que vous restez là devant tout le monde, oh, saisi d'un frisson irrésistible de pudeur, vous avez voilé votre visage de vos mains réunies avec un tel recul du corps que votre robe collé à vous, vous dessine à un instant pire que nu, les seins petits écrasés par un corset maillot, le ventre allongé et plat, achevé dans un pli mystérieux, les cuisses rondes et jointes, les genoux fins, un peu pliés, tous les détails de votre gracieux corps m'apparurent si nets, sous le crêpe de Chine, que j'en fus gêné. Mais déjà, vous dévoiliez vos yeux courroucés. Je n'ai jamais vu de... Ah, d'inconscience pareille à la vôtre, Colette. À quoi je répondis avec une grossièreté sans esprit, mon enfant, vous me barbez. Vous n'êtes ni ma mère ni mon amant. Par conséquent, un soupir excédé, une poignée de mains raides, ce furent là tous nos adieux. À présent, je ris toute seule en pensant à votre pudeur spéciale qui abrite sous de vastes et profonds chapeaux un corps menu dont chaque pas révèle sous une tunique étroite et courte le mouvement des hanches, la saillie et le roulis des fesses jointes et jusqu'à la couleur ambrée rose des bras, des épaules et du dos sous la dentelle des manches et du corsage. J'ai grande envie, moi, de vous m'origéner un peu, vous qui, non contente de paraître à la lumière du jour, dans cette tenue qu'une petite nymphe tanagréenne eût trouvée tout juste suffisante, sortez du bain à Trouville, les pointes des seins visibles sous le maillot de soie tendue qui brille comme un poisson mouillé. Il y a une chose, mon amie Valentine, que vous ne m'apprendrez jamais. C'est que la peau de mes reins ou de ma hanche puisse être plus tentante et plus secrète que celle de ma main ou de mon mollet. Et c'est cette inconscience, comme vous la nommez, cette sérénité de sauvage, qui rend inutile toutes vos indignations, tout l'étalage de votre petite vertu locale, si j'ose dire, de votre pudeur au centimètre carré. Vous souvenez-vous des poursuites demeurées fameuses contre le nu au Music Hall? Une petite marcheuse fut inquiétée cruellement à cette époque. Elle remplissait 2 euros. Dans une revue de fin d'année. L'un la produisait nue, chaste et muette, immobile sur une nuée de carton, un arc à la main. Deux tableaux après, elle revenait en scène avec les dessous féminins, vêtue d'une combinaison de dentelle et d'une paire de chaussettes. Ses petits genoux nus trépidaient pendant qu'elle chantait un couplet aux indistinctes paroles. Et les fleurs de ses seins apparaissaient mauves sous le linon. Elle était gentille là-dedans, un peu ridicule et parfaitement indécente. Aussi, on lui coupa un de ses rôles, entendait bien par là qu'elle rendit l'arc d'Artémis et garda sa combinaison. Bon, cela vous semble tout naturel, j'en étais sûr. Ah, sacrée petite bonne femme. Il y a pourtant des moments où j'ai la faiblesse de vouloir me faire comprendre de vous, d'empoigner par ses cheveux d'or, les vrais et les faux, cette petite caboche plus dure qu'une noix de coco et de la cogner très fort pour en secouer tous les préjugés, tous les tronçons d'idées, les débris de principes qui font ensemble un si immoral tapage. Oui, immoral, petite buse, immoral, serine, immoral, cruche, poreuse, et encore j'emploie des mots convenables. Ça m'est égal, vos yeux ronds et votre bouche suffoquée. Vous ne saurez jamais tout le mal que je pense de vous, vous qui me regardez, parce que j'ai cessé d'avoir un mari, comme si j'avais contracté une maladie gênante, difficile à cacher, difficile à avouer. Vous rirez comme d'un paradoxe facile si je tente de vous expliquer que l'état de mariage m'apparaît comme saugrenu, et plutôt anormal, à vous qui avez un mari dans les automobiles, et qui oubliez à son bras l'infidélité et la fuite d'un premier amant. Cet homme-là, votre mari, vous ne l'avez donc jamais contemplé longuement, profondément? Ne me répondez pas spirituelle et évasive. Si, puisque je l'ai trompé. Souvenez-vous, sans rire, du temps où vous ne le trompiez point. N'y eut-il pas un jour dans votre vie où, fidèle, aimante, amoureuse même, vous l'avez regardé soudain avec un recul d'étonnement? Qu'est-ce que cet homme fait chez moi, avec moi? Pourquoi, en somme, est-ce que je vis avec ce monsieur qui est là dans ma chambre? Je l'ai épousé, bon, j'ai couché avec lui, bon. Mais tout ça n'empêche pas que c'est un monsieur comme un autre, qui est là dans ma chambre, dans mon lit, dans ma vie. Il entre chez moi dans mon cabinet de toilette, après avoir demandé « Je ne te dérange pas, ma chérie ?» Je lui réponds « Non, mon amour, mais cela n'empêche pas que ce monsieur soit là, dans ma chambre, et que sa figure, la forme de son dos, son geste pour lisser sa moustache, me soit tout d'un coup étranger, choquant, déplacé. Toute ma vie, alors, je vivrai comme cela avec un monsieur qui aura le droit de voir ma mauvaise mine du matin, d'entrer pendant que je bois ma tisane purgative, s'informera des dates difficiles de mon petit calendrier de femme, se promènera en caleçon dans mon cabinet de toilette. Il est là, dans ma vie. Pour toute la vie, pourquoi? Je ne le connais pas, au fait. Je l'aime, mais ça, c'est une autre question. L'amour n'a rien à voir avec la vie en commun. Au contraire, il en meurt la plupart du temps. Avouez-le, mon amie Valentine. Il n'est pas possible que votre état de mariage ne vous soit apparu pendant une heure, pendant un instant, dans toute sa grossièreté saugrenue. Et qui vous dit que votre mari, lui aussi, n'en ait point souffert dans sa pudeur, une pudeur d'homme, presque toujours plus délicate, plus sincère que la nôtre? Je dis votre mari, le mien, celui de toutes ces dames. Un matin, il se sera éveillé, maussade, absorbé, parlant à peine, l'œil en dessous. À votre sollicitude, « Qu'est-ce que tu as, mon chéri ?» Il leur a répondu « Rien, un peu de migraine. » Et après avoir avalé le cachet de pyramidon tendu par votre main affectueuse, il continuera à se taire avec l'air d'un homme à qui il est arrivé quelque chose. Il lui est arrivé la même chose qu'à vous. Il ne vous reconnaît pas, il vous regarde sournoisement par-dessus son journal, stupéfait et révolté dans le fond de vous découvrir tout à coup, de détailler d'un œil lucide et froid cette dame qui est là chez lui, qui plante en chantonnant des fourches d'écailles dans son chignon, sonne la femme de chambre, ordonne, tranche, dispose. Je vous le jure, mon ami, il y a dans ces minutes fugitives des regards d'amant à maîtresse, de femme à mari, qui effraient. Je me souviens d'un mot charmant de ma mère que mon père admonestait un jour assez vivement. « Je te défends, lui dit-elle, de me parler ainsi. Tu n'es même pas mon parent. » Mes oreilles d'enfant le retinrent, ce mot singulier, et depuis j'y rêvais souvent. « Vous êtes bien capable en ce moment, petite poison, de me lire avec un joli sourire méchant qui signifie « On comprend qu'elle dispique pente du mariage, elle qui... Moi qui... Quoi ? Moi qui n'ai pas eu à m'en louer, la belle affaire. Je tiens à ne vous point laisser fémininement déplacer la question. Je vous citerai, tel qu'il m'est demeuré en l'esprit, le petit sermon que me fit ma mère la veille du jour où j'épousais l'homme que j'aimais et qui m'aimait. Alors, mon pauvre petit toutou, tu vas t'en aller de moi ? Tu vas t'en aller avec qui ? Mais maman, avec celui que j'aime. Je le sais bien que tu l'aimes, et c'est pas le plus beau de ton affaire. Il vaudrait mieux, ma foi, que tu l'aimes moins. Et puis, eh ben c'est tout. C'est tout, te voilà bien avancé. Ce que je vois surtout, c'est que tu vas t'en aller avec un homme. Et je ne trouve pas ça bien joli que ma fille s'en aille avec un homme. Mais maman, il sera mon mari. Ça m'est bien égal qu'il soit ton mari. J'en ai eu deux, moi, des maris. Et je n'en suis pas plus fier pour ça. Un homme que tu ne connais seulement pas. Oh, mais si, maman, je le connais. Mais tu ne le connais pas, petite sotte, puisque tu l'aimes. Tu vas t'en aller toute seule avec un monsieur. Et nous te regarderons partir, tes frères et moi, avec des figures longues comme ça. C'est révoltant que des choses pareilles soient permises. Mais enfin, maman, tu es extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce que tu voudras, naturellement, mais... C'est pas propre. Hein, tout est bien mal arrangé. Regarde un peu, il te dit qu'il t'aime. Et comme tu l'aimes aussi, te voilà dans ses bras et prête à le suivre au bout du monde. Mais qu'il te dise brusquement, je ne vous aime plus. Et il change à tes yeux. Tu découvres qu'il a le nez bref des gens qui manquent de jugement et d'équilibre, le cou court, sanguin, de ceux qui tuent dans la colère. La voix nuancée et séduisante des menteurs, un menton de femme, faible et sensuel. Oh, mon petit toutou adoré, ne pleure pas, je ne suis qu'une vieille rabat-joie. Qu'est-ce que tu veux, je dis toujours des choses énormes. Mais la vérité, c'est qu'il faudrait épouser son propre frère, si l'on voulait se marier en connaissance de cause. Et encore, tout sang étranger qui entre dans une famille et qui fait qu'on regarde son propre fils en se disant... Mais d'où m'amène-t-il ces yeux-là, et ce front, et ces colères de fou, et cette aptitude au mensonge ? Ah, mon pauvre toutou chéri, je ne cherche pas à expliquer, ni à refaire, comme ils disent, une société nouvelle. Mais tout est si mal arrangé. Mon amie Valentine, excusez-moi. Je me laisse entraîner à des souvenirs qui pourraient manquer de gaieté. Non plus que ma charmante toquée de mère, je ne cherche à rien changer de ce qui existe. La solitude, une enivrante liberté et l'absence de tout corset ont vite fait de moi, vous le voyez, une prêcheuse de la pire espèce. Je ne voulais qu'un peu moraliser à mon tour, par pure taquinerie. Et j'apporte au jeu une conviction lamentable. Il me semble que je vois dans quelques 10 ans une vieille Colette raisonneuse, sèche, avec des cheveux d'étudiante russe, une robe réformiste, qui s'en ira dans les villes prônant l'union libre, l'orgueilleux isolement et patia-patia et un tas de fariboles. Brrr. Mais quel démon me montre plus terrible encore l'image d'une Colette quadragénaire, enflammée d'un amour neuf, mûre et molle sous le phare, combative et désespérée. De mes deux bras étendus, je repousse les deux fantômes. Je cherche entre eux un étroit chemin abrité où me guide une main amie. Adieu, ma chère. Je crains bien que vous n'aimiez pas cette lettre. Nous ne nous entendrons jamais, mon amie Valentine. Et toute notre vie, je l'espère, nous nous chercherons, avec une tendresse agressive et désintéressée. Vous n'espérez plus me ramener au bien. Je ne compte pas vous convertir. Cela donne à nos conversations une chaleur factice et inoffensive qui réconforte et n'illusionne point. Adieu. Retournez à votre tennis en robe cuirasse Jeanne d'Arc. Je m'en vais pêcher le poisson plat qui se prend sous le pied nu dans les trous profonds que laisse la mer basse. Il fait grand vent. Le sable marche en longs ruisseaux rapides qui accourent parallèlement de l'horizon et leur reptation donne le vertige. Sous le ciel bas, la plage est un désert sans bornes, couleur de cendre, et les dunes pâles fument sous le vent qui les désagrège. Ici, vous péririez de désolation, mon enfant. Et pourtant, je m'y plais. Je vous embrasse. Revenez, bien belle et bien contente, votre amie Colette Willy. Vie et mort du Philocactus. Mon Philocactus est, ce matin, spontanément décidé à fleurir. Si éphémère que soit sa fleur, j'espère qu'elle passera la journée et que cette descendante du cactus rose de Sido ne se retirera du monde que vers la nuit. Éphémère n'est pas assez dire. Née de ce matin, la fleur admirable commence déjà sa mort. Je ne la quitterai pas avant sa défaillance dernière. Il y a une heure, qu'André Barbier me la fit porter. Grâce te soit encore une fois rendue, Sido, ma mère. Toi qui choisis sur tout autre spectacle celui du cactus rose en chemin de s'épanouir. Si tu n'avais pas écrit un certain billet que j'insérais dans la naissance du jour, je ne serais pas ici, contemplant comme tu fis un fatal et rapide prodige de floraison et de défloraison, dans la grande et déclinante lumière de juin, devant un petit pot sec, devant une plante en forme de laide latte verte, qui met tout son orgueil, tout son bref destin dans une seule fleur, une seule explosion longuement promise et longtemps différée. Elle était, il y a une heure, d'un blanc aussi pur que le nénuphar blanc. Déjà une ombre s'avance sur elle. Mais je puis encore la dire blanche, célébrée sur ses longs pétales, un des tons de blanc qui ne couronne ni le gardénia, ni le magnolia, ni le lys. Un mystère verdâtre, à peine perceptible, commence à la base de son calice et lentement l'imprègne. Puis-je écrire, puis-je penser, pencher sur elle le mot « lentement » Il s'agit d'un instant, il s'agit du temps d'un soupir. Ce qui était dardé fléchit, ce qui était brandi renonce. Mais la gloire et l'arrogance se réfugient vers le centre de la corolle, où la protection du blanc est encore assurée. Long, long pétale, long comme une petite main, belle forme spatulée. Chaque spatule achevée en épine inoffensive, coalition unanime autour d'un foyer d'étamine, autour du point le plus vulnérable. Mais le centre du centre m'était encore à découvrir. Une hampe unique s'élève et déchire en étoile son propre sommet, évoque l'étoile de mer, l'holothurie béante, l'anémone marine épanouie au bout de sa tige, le cristal géométrique de la neige. Hâtons-nous de voir, de comparer. À quoi bon ? Quelque chose de puissant et de néfaste vient d'attaquer un segment fleuri de la corolle qui ploie. Le bistre est le ver inséparable de toute corruption qu'enquiert la créature qui attendit 4 ans sa récompense d'un jour. Défleurie, elle ira, m'écrit André Barbier, au muséum qui la veut soigner attentivement. Un autre long sommeil l'attend. Peut-être son effort l'a-t-il conduite au-delà du repos dont nous espérons la rappeler. Qu'importe, puisqu'en un jour, elle a célébré et accompli sa saison passionnée.
C'était « Bonne nouvelle, grand comédien » de Patrice Galbeau. Françoise Rosay lisait deux textes de Colette, « Mon amie Valentine », puis « Vie et mort » du Philocactus, édition Fayard. Réalisation Georges Perroux, première diffusion sur France Culture le 29 juillet 1970. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique « Les nuits de France Culture ».